Accent d'Europe, Frédéric Lebel.
Bonjour à tous. À l'heure où le Parlement français revoit les lois sur la bioéthique pour autoriser la procréation médicalement assistée aux couples de femmes et aux femmes seules, pour permettre aux enfants nés grâce à des dons de gamètes de connaître leurs géniteurs, comment nos voisins européens gèrent-ils ces questions ? Force est de constater qu'il n'y a pas de modèle européen. À quelques jours des prochaines élections législatives en Pologne, le parti populiste au pouvoir, le PiS, se distingue par ses positions ultra-conservatrice. Les fécondations in vitro étaient déjà réservées uniquement aux couples hétérosexuels, sans donneur extérieur. Elles ne sont plus désormais remboursées. C'est le reportage de Thomas Giraudeau.
22 000 enfants sont nés de fécondation in vitro, intégralement remboursés par l'État entre 2013 et 2016. Parmi eux, le fils de Justina Bayer. Nous la rencontrons à l'issue d'un congrès de femmes organisé à Varsovie.
J'ai eu 3 cycles de fécondation in vitro et mon fils est né à l'issue de l'ultime cycle, la dernière chance. Durant cette période, mon mari et moi avons vécu une sorte de vie parallèle, des montagnes russes d'émotions, et en même temps, la grande politique s'en est mêlée. Ma dernière chance a eu lieu juste avant que le gouvernement arrête de rembourser les couples. Je ne savais pas si mon corps allait être prêt dans les temps. J'ai été hyper stimulée par mon médecin car on a dû se dépêcher. C'était très, très dur.
En 2016, le PiS, droit et justice au pouvoir, ne renouvelle pas le programme de remboursement lancé par ses prédécesseurs. Les couples doivent se débrouiller seuls, sauf dans une quinzaine de grandes villes polonaises comme Gdańsk, Cracovie ou Varsovie, toutes dirigées par l'opposition. Elles lancent leur propre compensation financière exclusivement destinée à leurs habitants. Justina Bayer sait qu'elle a eu de la chance.
J'éprouve une profonde empathie pour les couples qui aujourd'hui ne peuvent bénéficier d'aucun programme. Vous savez qu'il y a cette possibilité, mais quelqu'un ou gouvernement décide que vous n'y avez pas droit. Ça me met très en colère. Ces couples ont besoin d'argent et je connais l'état de solitude dans lequel ils se trouvent. C'est extrêmement dur, blessant.
Au moins 160 enfants sont nés à Varsovie dans le cadre du programme municipal. Il va être prolongé pour 3 ans, mais ne remboursera toujours pas à 100% les soins, faute de moyens suffisants.
Marta
Gourna dirige l'association Nashbotsian, notre cigogne en polonais. Elle accompagne les couples dans leur désir de concevoir.
C'est beaucoup plus difficile pour les couples infertiles d'avoir des enfants. D'abord parce que cela coûte vraiment très cher. En moyenne, un peu moins de 3000 euros pour chaque tentative. Dans les cas compliqués, ces coûts peuvent monter jusqu'à près de 5000 euros. En plus, normalement, il faut 2 ou 3 tentatives pour tomber enceinte. Et encore, cela ne fonctionne pas forcément. C'est donc une forme de discrimination économique. Tout le monde ne peut pas en profiter.
Avant, le programme gouvernemental remboursait la totalité de l'opération. Alors, depuis plus de 3 ans et sa disparition, Marta Gourna entend beaucoup de désespoir chez les couples infertiles.
Ils se sentent tristes parce qu'ils paient des taxes, des impôts pour les écoles, pour les enfants dont les parents sont fertiles et pas pour leurs potentiels enfants qu'ils ne peuvent pas avoir naturellement. Et l'État ne les aide pas. C'est très frustrant.
À Varsovie, la rancœur est tenace contre le PiS car c'est la ville qui doit maintenant aider les couples sans solution. Alexandra Sniegotska-Gojdzik préside la commission de la politique familiale au conseil municipal.
Depuis que le parti Droit et Justice est arrivé au pouvoir, ses leaders ont décidé que tout ce qui n'est pas assez catholique pour eux doit être détruit ou arrêté, comme ce programme in vitro. Ils ne comprennent pas le problème qu'on ne puisse pas concevoir naturellement nos propres enfants. Ils n'ont pas vraiment d'empathie pour ces familles. Ils pensent seulement à ce qui est le mieux, ce que leur conscience leur autorise de faire.
Leur conscience leur autorise une seule technique, la naprotechnologie. Elle est remboursée à 100%. Ces techniques consistent essentiellement à trouver le meilleur moment pour qu'un couple puisse concevoir naturellement, sans congélation des ovocytes et sans fécondation en laboratoire. Le tout en accord avec les valeurs catholiques traditionnelles du pouvoir. Des dizaines de millions de zloty ont déjà été dépensés, on ne sait où, pour des résultats plus que décevants. Seulement 70 bébés pour 1300 couples ont vu le jour entre 2016 et 2018. Un enfant né par Napro Technologies coûte aujourd'hui 30 fois plus cher à l'État que par la fécondation in vitro. Marta Gournat de l'association Najbotian.
Voilà ce qu'il se passe quand l'idéologie devient plus importante que la science. Le programme actuel se concentre seulement sur le diagnostic, ensuite il n'y a aucune aide. Les couples apprennent s'ils sont infertiles ou pas. Et ça s'arrête là. C'est comme si vous aviez un cancer, on vous le diagnostique et puis on vous dit merci, au revoir.
Si le PiS remporte de nouveau les élections le 13 octobre, Marta Gournat craint que les grandes villes n'aient plus les moyens de financer leur programme in vitro. En effet, le PiS leur impose déjà de nouvelles réformes très coûteuses pour leur budget. C'est déjà le cas de Poznan. La cinquième ville du pays devrait l'an prochain mettre un terme à son programme local, faute de moyens.
Et choisir un donneur de sperme sur catalogue, c'est possible. C'est même devenu un business mondial pour le Danemark, qui exporte des gamètes dans une centaine de pays au monde. Cette immense banque du vivant au nom de Cryos présente les spermes des donneurs comme des biens commerciaux, Anne-Françoise Hiver.
Blond, aux yeux bleus, 1m77 pour 75 kg. Selon sa fiche de présentation, il ne porte pas de lentilles, n'a pas d'allergie, est O négatif. Il a deux enfants, tous les deux heureux et en bonne santé, bien sûr. Il est chrétien, ne fume pas, dort en moyenne 8 heures par nuit et travaille dans un magasin. Et s'il a choisi de donner son sperme, c'est que le monde a besoin de plus de gens comme lui, souriants et positifs, écrit-il aux parents en quête d'un donneur. Pour s'offrir les gamètes de ce parfait géniteur, il vous suffira de débourser entre 486 et 2112 euros. En fonction de la qualité de l'exemplaire souhaité, de solution, se faire livrer dans une clinique de fertilité ou bien par DHL dans un tube d'azote emballé dans un colis isotherme pour une insémination à la maison. Au total, Cryos, c'est le nom de la première banque de sperme au monde, dispose d'un catalogue de plus de 900 donneurs. L'aventure a commencé dans les années 80 quand tout le chou, son patron, fait un rêve plein de gamètes congelées qu'il ne se lasse plus depuis de raconter. Au total, Cryos estime avoir permis d'enfanter 60 000 marmots dans le monde. La sélection des donneurs est méticuleuse. Les candidats subissent une batterie de tests, examens sanguins, génétiques, tests psychologiques. Si le Danemark interdit la rémunération du don de sperme, il autorise le versement d'une compensation financière exonérée d'impôts qui peut atteindre 45 euros le don. Un business qui n'est pas sans poser de questions. Cryos n'hésite pas à mettre en avant l'origine scandinave de la plupart de ses donneurs. Bébé blond aux yeux bleus garanti. Il y a quelques années, son site internet s'ouvrait sur le slogan « Félicitations, c'est un viking ». Jusqu'en 2012, la législation danoise autorisait 25 procréations par donneur. Depuis, la limite a été rabaissée à 12. Mais l'exportation permet de contourner cet obstacle. En moyenne, chaque donneur aurait engendré 25 enfants. Une poignée, cependant, serait les géniteurs d'une centaine de bébés.
Et en Ukraine, pas de loi de bioéthique. Certaines cliniques se sont même fait une spécialité d'un commerce très lucratif de mères porteuses, les fameuses GPA interdites en France. Quant à la procréation médicalement assistée, elle suscite aussi des controverses scientifiques cette fois. Les explications à Kiev de Sébastien Gobert.
C'est en mars 1991, quelques mois avant l'indépendance, qu'est née Katia Kulyova, la première bébé in vitro de l'histoire ukrainienne. Depuis, les différentes méthodes de procréation médicalement assistée se sont développées dans une indifférence relativement générale. Pourtant, l'Ukraine compte parmi les principaux centres dans le monde pour la gestation pour autrui. Plusieurs cliniques, en particulier à Kiev et à Kharkiv, la seconde ville du pays, recrutent des mères porteuses pour des couples en incapacité d'avoir des enfants. 94% de ces demandeurs sont des étrangers qui dépensent entre 20 000 et 30 000 euros pour devenir parents. Plusieurs reportages et enquêtes ont démontré que la plupart des GPA se déroulent bien, que ce soit d'un strict point de vue médical ou en termes de relations entre les parents, la mère porteuse et la clinique. Mais plusieurs scandales ont déjà fait les gros titres, comme cette famille française bloquée à la frontière avec la Hongrie en 2011 en tentant d'exfiltrer deux nouveau-nés non déclarés. Si la gestation pour autrui ne suscite aucune controverse dans le pays, les travaux du professeur Zoukine sur la fécondation in vitro ont provoqué, eux, une levée de boucliers en 2017. Il a mis au point une méthode d'enfant à trois parents, selon laquelle l'ovocyte est composé presque entièrement du matériel génétique de la mère et d'environ 0,15% de l'ADN d'une donneuse qui compense les déficiences du couple. Pour l'Église ukrainienne, c'est inacceptable. Mais malgré quelques protestations, les expérimentations continuent et l'Ukraine reste un des points les plus actifs sur la carte du monde de la PMA.
Et on ne sait peu, mais on vient aussi du monde entier pour obtenir une fécondation in vitro en Turquie. Techniquement, le taux de réussite est élevé et les prix très abordables. Reportage à Istanbul d'Anand Lauer.
Belsem et son mari Erdal ont voyagé de Kirkuk en Irak pour faire un enfant en Turquie. Plus exactement, ils vont avoir recours dans une clinique d'Istanbul à une fécondation in vitro, une FIV. C'est la seconde fois que Belsem, aujourd'hui 41 ans, est reçu dans cette clinique. La première fois, c'était il y a 4 ans pour concevoir sa fille Céline.
À l'époque, j'étais stressée. Là, je me sens très bien. Je sais ce qui va se passer.
En tout, ce couple et leur fille auront passé un petit mois à Istanbul pour cette procédure. Erdal explique leur choix de la Turquie.
En Irak, il est possible de trouver des centres, mais c'est beaucoup moins développé, beaucoup moins sûr et souvent beaucoup moins hygiénique qu'ici. Et dans 70% des cas, c'est un échec. Nous avons fait des recherches sur Internet et trouvé cette clinique turque d'excellente réputation. Ayant les moyens de venir, nous n'avons pas hésité.
Depuis la première FIV réalisée en Turquie en 1986, la technique s'est développée de manière fulgurante. En 2002, le pays ne comptait que 39 centres. Ils sont près de 130 aujourd'hui. À tel point que le gouvernement limite désormais drastiquement l'ouverture de nouveaux centres, estimant que les besoins sont pour l'instant couverts. La clinique où Belsem et Erdal espèrent concevoir aujourd'hui leur second enfant a été fondée il y a 12 ans par le docteur Yücel Karaman. Ce médecin turc est un précurseur des techniques de FIV dans son pays et en Europe, puisqu'il les utilise depuis 1980. Yücel Karaman a travaillé 20 ans en Belgique avant de s'installer à Istanbul en 2000. Dans sa clinique du centre d'Istanbul, 30 à 35% des patientes arrivent de l'étranger, principalement d'Irak, où l'infrastructure médicale est sinistrée par des années de guerre, et d'Europe. Allemagne, Belgique, Bulgarie, France, Suisse, pour ne citer que les 5 pays qui reviennent le plus souvent sur le passeport des patientes. Pour justifier un tel engouement, le docteur Karaman avance une statistique, 60%. C'est le taux de réussite moyen des FIV pratiqués en Turquie chez les femmes de moins de 35 ans, soit environ le double des taux de réussite en Europe. Première explication, un cadre législatif extrêmement favorable aux avancées technologiques qui sont fréquentes dans le domaine de la procréation médicalement assistée.
Quand il y a une nouvelle technologie qui arrive sur le marché, on applique immédiatement. Par exemple, la dernière chose, c'est de faire la fécondation in vitro avec des spermes qui ne sont pas encore matures. Au Japon, il y a un certain Tanaka qui a lancé une technique, il a trouvé une machine. Le lendemain, j'ai envoyé donc un urologue là-bas, il est allé là-bas, il a appris pendant 2 semaines, on a pris la machine, on fait ça depuis 2 mois. On commence à obtenir des résultats. Donc ça veut dire qu'il y a un dynamisme ici en Turquie. Mais en Belgique, par exemple, quand je travaillais, impossible à faire une chose pareille, ça devait passer devant une transit-commission, le budget, tout ça.
Deuxième explication à ces taux de réussite élevés, l'accès aux tests de dépistage des anomalies génétiques. Dans certains pays d'Europe, ils ne sont autorisés que sous certaines conditions, pratiqués par un petit nombre de centres et sujets à de longues listes d'attente. En Turquie, les médecins savent facilement si l'embryon qu'ils envisagent de transférer à leur patiente est porteur ou non d'anomalies chromosomiques, ce qui diminue les risques de fausses couches et d'interruption de grossesse. Yücel Karaman.
On a l'accès beaucoup plus facilement à des centres génétiques pour faire l'examen génétique des embryons, même pour des maladies extrêmement rares. Par exemple, ici dans ce centre, on a fait pour la première fois au monde, 4 fois, 4 maladies qu'on a fait pour la première fois au monde, donc le dépistage à partir des embryons, parce qu'il y a quelque 3500 maladies génétiques qu'on peut dépister.
Souvent, les patientes occidentales viennent en Turquie après une ou plusieurs tentatives dans leur pays d'origine, où, bien souvent, la sécurité sociale et les mutuelles ne remboursent plus ces procédures au-delà d'un certain nombre d'essais. Elles choisissent aussi la Turquie pour une raison qui n'a pas grand-chose à voir avec la science, le coût moindre des FIV dans ce pays situé à moins de 3 heures de vol de la plupart des capitales européennes. Yücel Karaman.
Ça dépend de quel pays, c'est plus ou moins 40% moins cher. Les gammes de prix, ça dépend de l'âge de la patiente, parce que quand on donne le prix, il faut donner un prix global, y compris les médicaments. Les médicaments, plus la patiente est âgée, plus le coût augmente. C'est plus ou moins 2 500 euros, plus ou moins le coût. Actuellement en Europe, ça c'est le double, ça c'est presque le double.
Chaque année, quelques 55 000 enfants naissent en Turquie grâce à la procréation médicalement assistée, soit 20 fois plus qu'il y a 15 ans. Un chiffre qui n'inclut pas les enfants nés à l'étranger après une FIV en Turquie, comme la fille de Belsem, la patiente irakienne de Yücel Karaman. D'ici 9 mois, Belsem et son mari espèrent que le visage d'un petit garçon ou d'une petite fille ornera à son tour le tableau de photos de cette clinique d'Istanbul, où l'on aime prendre des nouvelles des bébés étrangers conçus entre ses murs.
Nous allons commencer le test. Lisez à haute voix.
24. 80.
80. On dit 80 ici.
Oui. Et pour notre nouvelle chronique en un mot intraduisible qui nous en dit long sur un pays du continent, nous avons choisi 70 ou 90, cette façon de compter qui est si particulière à la Belgique, à quelques pays africains, mais aussi à la Suisse. Une question historique, mais aussi identitaire, qu'explore pour nous Jérémy Lanche à Genève. Alors, pourquoi 70 plutôt que 70?
Ça ne fait aucun sens de dire ni 80, ni 90, ni 70. C'est un micmac pas possible pour les gens qui apprennent le français. C'est l'horreur totale. Pour faire des mathématiques, en plus des mathématiques, en apprenant les chiffres de base.
Océane est formelle. Cette jeune étudiante suisse ne supporte pas quand un Français écorche, selon elle, la façon de prononcer les nombres. Comme tous les Suisses, Océane dit 70 et 90. Et comme tous les habitants du canton de Vaud, elle ne dit pas 80, mais bien...
80. 80.
C'est plus correct, en fait, de dire 80?
Mais oui, c'est vachement plus simple. Si vous dites un long chiffre et puis vous commencez par 84, vous savez tout de suite que c'est 80. Si vous dites 83, vous pourriez écrire 4... 23, vous voyez, c'est l'enfer. 97, on écrit 8, puis après on se dit merde, en fait c'est un 9, et puis un 7.
Celle qu'on entend rire, c'est la mère d'Océane, Patricia.
On a l'habitude ici à Genève, et ma mère qui est née en France, elle, en Haute-Savoie, quand elle a appris à l'école, elle disait 80 et 90. En Haute-Savoie, on faisait ça comme ça.
Pour comprendre d'où vient cette différence dans la façon de compter, il faut faire un peu d'histoire et un peu de mathématiques. C'est la conquête romaine qui impose à l'Europe le système décimal, celui qui permet de compter par 10, 20, 30, 40, mais aussi 70, 80 et 90. La Suisse est donc la digne héritière de Rome, mais pas la France, qui continue d'utiliser en partie l'ancien système vigésimal, c'est-à-dire un comptage par vingtaine, comme quand nous disons 80 et 90. Stéphane, lui, est français. Cela fait 15 ans qu'il travaille dans la restauration à Genève. Pour lui, l'erreur relèverait presque de la faute professionnelle.
J'ai pris le pli, quoi.
Vous dites naturellement les 70.
70 et 90, voilà. Mais après, voilà, non, mais ça me titille aussi. Puis j'ai des origines un peu belges, alors tu vois, ça le fait quand même aussi.
Oui, parce qu'en Belgique, on dit pareil.
On dit pareil aussi, ouais. 70, 90, quoi.
Il n'y a pas encore des fois un petit 70 qui vous échappe?
Ça peut arriver, mais alors c'est très rare, quoi. Au bout de 15 ans, je pense que non, c'est ancré, quoi. Je fais naturellement, ouais, en France aussi, quoi. Mais ça m'arrive des fois de dire 70 ou 90 aussi, ouais. En France, je suis vraiment intégré, je pense.
Pour d'autres, la mue est plus compliquée. 86 000 frontaliers, essentiellement français, viennent tous les jours travailler à Genève. Un 70 lâché par mégarde au bureau est plus vite arrivé qu'on ne le pense. Pas de quoi déclencher un licenciement, bien sûr, mais à minima, une remarque de vos collègues, surtout dans un contexte politique tendu depuis plusieurs années en Suisse et à Genève. La défiance vis-à-vis des frontaliers français est même devenue un fonds de commerce pour plusieurs partis politiques classés à l'extrême droite. C'est le cas du MCG, le mouvement des citoyens genevois, qui est représenté dans le gouvernement local. Alexandre est né à Genève, il travaille dans une organisation internationale et il sait que le vocabulaire peut parfois trahir un salarié.
Ça peut étiqueter quelqu'un, surtout dans un contexte où la dimension frontalière elle joue un rôle et dans un contexte ou une région où les gens ont tendance à appuyer sur leur identité très locale, donc très genevoise. Je pense que ça peut avoir un effet dans certains contextes.
D'autres Suisses regrettent ce lissage de la langue française, c'est le cas d'Alain.
Moi je suis partisan de dire comme on a envie. Ça fixe l'origine de votre interlocuteur direct. Si c'est 90, ben vous imaginez que ça pourrait peut-être un Parisien ou un Français qui vous parle. C'est sympa, c'est la diversité du français.
Et Alain peut se rassurer, il y a suffisamment d'expressions typiquement suisses que les Français ont encore du mal à intégrer dans la vie de tous les jours, comme le natel pour le téléphone portable ou une fourre pour un étui ou une housse de couette.
Accent d'Europe était réalisé aujourd'hui par Françoise Grelot. Retrouvez-nous sur notre site rfi.fr à la rubrique podcast Accent d'Europe et sur les réseaux sociaux. À demain.